Oh là là, le foot.
Ah mais tout ce foot. Incroyable, hein.
Des buts et tout, là.
Puis à la moitié du match, ils ont arrêté le match un quart d'heure.
Ah oui, ça m'a étonné aussi. Ces gens ont fait une pause.
Ouais, à la moitié du match, quoi, c'est bizarre.
Ouais. Puis le résultat, bon, bah.
Ouais, bah ça,
Faut
c'était.
bien que quelqu'un gagne,
C'est
hein.
sûr.
Voilà. Oui, on est jeudi ici,
Non,
donc
on n'a pas vu
c'est.
le match en fait.
On boycotte en plus.
Oui, c'est vrai, on boycotte.
Bon alors la gauche, c'est quoi ce bordel encore? Moi je croyais qu'on était tous potes, qu'on faisait la NUPES et tout, que tout allait bien. Et là il y a Roussel, il critique les insoumis dès qu'on lui tend un micro. Marine Tondelier qui dit quand c'est non, y a pas moyen de jaja. C'est quoi cette ambiance?
Non mais c'est n'importe quoi, ça avait bien commencé pourtant.
Souvenez-vous de ce grand meeting le 7 mai dernier dont on vous a parlé ici même. Il y avait eu de belles choses qui donnaient de l'espoir pour la suite. L'arc de rédemption d'Olivier Faure, l'absence de Yannick Jadot et Anne Hidalgo, et Jean-Luc Le Gris qui parle de rupture et qui veut être Premier ministre.
Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour, il y a un troisième tour.
Bon là on est à quoi? Au huitième tour à peu près?
Ouais c'est ça, bah, c'est la réforme des retraites. Hein. Elle devrait être annoncée en janvier prochain, passer en force et puis être appliquée dès l'été 2023.
Voilà, et tout le monde est d'accord à gauche pour dire que c'est une réforme dégueulasse, pas nécessaire. Même au PS, hein, on va écouter Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée.
C'est non à cette réforme injuste, brutale et dont nous contestons la nécessité et l'urgence.
Voilà, il y a tout le monde, il y a Roussel, Faure, et on peut voir aussi Corbière et Autain qui ont l'air un peu dissipés. Peut-être qu'ils avaient la tête ailleurs, ils se disent des trucs secrets qu'on peut pas entendre.
Heureusement, nous nous sommes procurés les bandes audio dans lesquelles nous avons pu zoomer grâce à un logiciel spécial de Mediapart, et donc vous l'attendiez, on vous révèle ici, dans Ouvrez les guillemets, cet échange en exclusivité.
Parce que c'est injuste. Et puisque la première ministre s'est donnée.
Il t'a appelé Bompard pour intégrer la direction.
Non,
il n'y a pas Ruffin non plus, il y a moyen de les faire chier.
Le premier ministre,
par contre, c'est une conférence de presse, il y a des caméras, donc tu te tais.
Qu'il y renonce.
Bon, évidemment, c'est une blague, c'est un détournement. Vous vous doutez bien qu'on peut pas zoomer dans des bandes audio.
Parce qu'ils nous laissent pas utiliser le logiciel à Mediapart sous prétexte qu'on n'est pas du service enquête.
Mais c'est pas parce que t'avais piqué le portable à Edoui pour avoir le 06 de Jospin?
De toute façon, on peut rien faire. On peut pas appeler Jospin, on peut pas mettre Laurent Wauquiez sur écoute. Mediapart, c'est boulot, 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 abonnez-vous.
Bref, tout ça pour dire qu'au moment même où se profile la prochaine grande bataille pour les forces de gauche, ça commence à péter de partout. Il y a des bisbilles à l'intérieur de l'AFI, on va y revenir, et au PCF, on prépare le prochain congrès qui va opposer les et les anti-Roussel.
Et autant vous dire que ce congrès, ce 40e congrès du PCF, ça risque d'être une boucherie.
C'est par rapport aux saucisses.
Chez les écolos, Marine Tondelier a été triomphalement élue à la tête des Verts sur une ligne NUPES, mais pas trop, et s'est empressée d'aller sur France Inter pour afficher l'unité de la gauche.
Les élections européennes, c'est dans un an et demi, vous dites la ligne est claire, on présentera une liste écologiste. Hier, Emmanuel Bompard à ce micro, ne désespérez pas de vous convaincre de faire une liste commune, une liste NUPES, pour éviter le duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Vous lui répondez quoi ce matin? Merci mais non merci.
Quand c'est non, c'est non.
Ok, donc on part sur pas de liste commune aux européennes.
Bah c'est dommage ça, moi je pense que les insoumis devraient leur redemander une fois de plus encore, ils devraient les rappeler tiens.
Oui, oui, tout le monde est content d'avoir des coups de fil de Manuel Bompard.
Faut arrêter de faire les forceurs en fait, on l'a dit, on l'a redit, on l'a re-redit. Maintenant stop, on discute quand ils veulent de plein de choses.
Ils vont aimer les
européennes,
des forceurs.
C'est non.
Bon après les écolos ont d'assez bonnes raisons de vouloir partir de leur côté. Déjà c'est un scrutin de liste à la proportionnelle.
Ouais, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de second tour, pas besoin de se rassembler pour gagner contre le camp d'en face. Toutes les listes qui font plus de 5% auront des élus.
Ajoutez à ça que c'est un scrutin qui a souvent été favorable aux écolos, et puis il y a cette question des groupes.
Au Parlement européen, comme à l'Assemblée nationale, les élus se regroupent par famille politique. La gauche radicale va avec les autres partis de la gauche radicale en Europe, la GUE-NGL, actuellement coprésidée par l'insoumise Manon Aubry, les socialistes rejoignent l'Alliance des socialistes, le SED, et les Verts rejoignent leurs copains verts de toute l'Europe dans le groupe Les Verts.
Donc les européennes, c'est pas le meilleur scrutin pour juger si l'union de la gauche tient bon. À la limite, s'ils se tirent pas trop dans les pattes pendant la campagne, ce sera déjà bien.
Oui, mais tu vas voir que les journalistes vont quand même en faire des caisses sur « Ah bah vous êtes pas ensemble, blablabla ».
Question-réaction, amis auditeurs, au 01 45 24 49 3. Et avec nous aujourd'hui, notre invité Clémentin Autine, député LFI de la Seine-sur-Marne.
Bonjour.
La gauche divisée, la gauche se chamaille. Clémentin Autine, quel spectacle vous pensez offrir aux Français?
Alors, c'est-à-dire...
Est-ce que c'est pas un peu des gamineries? Est-ce que ce serait pas un peu un combat de nuls, si vous me permettez l'expression? Le spectacle est déplorable.
Bon, alors, je ne vous permets pas.
C'est en tout cas ce qu'en pensent les Français. On a d'ailleurs un auditeur, un premier auditeur pour une question. Didier Dudou est avec nous, c'est à vous Didier.
Ouais, bonjour,
Clémentin Autine. Alors moi ça suffit, hein, parce que j'ai toujours été de gauche. Mais si la gauche est pas unie, cette fois, eh ben ça va bien. Hein. Je pense que je vais faire comme depuis 20 ans. Je vais voter Le Pen.
Voyez, vous décevez les électeurs de gauche, vous les dégoûtez même. Qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur Autine? Très rapidement, 10 secondes.
Bah écoutez, je pense qu'il va me falloir un peu plus.
Et pourtant l'heure tourne, c'est fini. Désolé, monsieur Autine. Hein, on va passer à la chronique de Natachi Polona qui aujourd'hui nous parle du wokisme à Sciences Po. Est-ce que cette vénérable institution est encore dans le champ républicain? C'est à vous, Natachi.
Alors oui, ces jours-ci, ça bastonne à gauche. Les journalistes en rajoutent peut-être, mais il y a bel et bien de grosses dissensions, y compris et surtout à l'intérieur de la France insoumise.
Alors bien sûr, il y a l'affaire Catenins.
On en a déjà parlé ici. Hein. Fin septembre, on a fait toute une vidéo sur les violences sexistes et sexuelles en politique.
En gros, on vous disait que ce serait pas mal que les partis de gauche montrent l'exemple et prennent enfin ce genre d'affaires un peu plus au sérieux.
Et ce n'est pas ce qui s'est passé dans l'affaire Catenins qui a opposé deux camps. D'un côté, les proches de Mélenchon, le premier cercle qui souhaitait que Catenins se réintègre au plus vite le groupe LFI à l'Assemblée, jugeant l'élu lillois indispensable dans les batailles qui s'annoncent. Et de l'autre côté, à peu près tout le reste de la gauche qui estime que le député n'est plus en position de poursuivre son mandat et qui appelle à sa démission.
Moi je pense que dans les batailles politiques qui s'annoncent, la réintégration d'Adrien Quatennens, ça serait plutôt un boulet pour toute la gauche.
Ouais, d'autant plus que maintenant il y a eu une condamnation sur reconnaissance préalable de culpabilité et que des écolos au PCF, tout le monde demande sa démission.
Et de manière assez claire, hein, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est une position qui semble faire consensus chez les alliés des insoumis. Écoutez le député PS du Calvados, Arthur Delaporte.
On prend acte de la décision de justice qui est une condamnation et qui sanctionne finalement une attitude personnelle et individuelle et d'autre part dire que d'un point de vue politique on peut traiter ces situations différemment. Et si Adrien Quatennens avait été au Parti Socialiste, nous l'aurions exclu du groupe.
Donc la position sur cette affaire des insoumis, elle réjouit leurs adversaires et elle met mal à l'aise leurs alliés. C'est peut-être pas la bonne position. Peut-être qu'il faut écouter ses alliés.
Bon, les députés insoumis ont quand même sanctionné Quatennens. Hein. Ils ont décidé de l'exclure 4 mois du groupe parlementaire et de conditionner son retour au suivi d'un stage sur les violences sexistes et sexuelles.
Était-ce suffisant? Eh ben, même chez les députés insoumis, la réponse ne va pas de soi.
Ma position à moi, c'est qu'il aurait fallu l'exclure. Voilà, du groupe. Je fais partie du groupe parlementaire de la France Insoumise et donc ce groupe parlementaire a pris cette décision, donc je l'assume. Néanmoins, je pense que c'est une, peut-être même, j'ose employer ce mot, une erreur politique que nous avons faite.
Ah, ça a changé hein, la France Insoumise. Hein. Avant déjà, bon, on votait pas. Et ensuite, quand une décision était prise, on n'allait certainement pas la critiquer dans les médias.
Non, mais de toute façon, Jean-Luc, il est plus là. Il y a des nouveaux députés partout. C'est le bordel. C'est l'anarchie.
L'affaire Catenins, depuis le début, depuis le premier tweet de Mélenchon, elle semble matérialiser deux clivages qui auraient de toute façon posé problème au parti de Jean-Luc. D'abord, le clivage entre un premier cercle autour de Mélenchon, composé de gens qui lui doivent tout, hein, et qui sont pour la plupart assez jeunes, ceux qui vont suivre vraiment Mélenchon, ses plans, ses consignes.
Et face à eux, les insoumis des insoumis, des fortes têtes, les gens qui avaient déjà un capital politique important et qui ont toujours conservé leur liberté de ton, des gens comme Ruffin ou Clémentine Autain.
Et même Raquel Garrido, qui est citée dans cet article du Monde de Julie Caria, elle dit « Les militants veulent choisir leurs représentants et peser sur les orientations politiques. Ils ont presque honte à la fin d'être dans un mouvement qui ne le permet pas, ce n'est pas un gage de maturité. » Et elle parle de Mélenchon et elle dit « Il faut qu'il choisisse s'il veut aider ou s'il veut nuire. »
Et là, c'est sur la désignation de l'exécutif insoumis que ça a bloqué. La direction opérationnelle, c'est-à-dire le bureau politique du parti, a été nommée par cooptation, selon Clémentine Autain, ce qui interroge beaucoup de monde à l'extérieur comme à l'intérieur du mouvement.
Le député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, s'apprête à prendre la direction du parti insoumis. Il n'y a pas d'élection, désignation par consensus des cadres. Ça vous convient comme mode de fonctionnement parce que certains disent ne pas avoir été mis au courant et vous voyez bien les articles qui fleurissent sur la colère des uns et des autres au sein de votre parti sur ce mode de désignement, de désignation.
Bon, moi, je... On ne m'a pas proposé d'être à l'intérieur de la direction.
Vous le regrettez?
Je suis triste pour eux plus que pour moi.
Pourquoi?
Parce que je pense que j'avais quelque chose à apporter.
Bah, il va pouvoir apporter le café s'il veut, mais je crois que ses propositions, il peut se...
Bon, ça, c'est le premier clivage. Il y a d'un côté les fidèles, et de l'autre ceux qui appellent à plus de démocratie et de transparence dans la prise de décision.
Clémentine Autain a fait la une de Libé lundi dernier sur ce thème. Libé avait choisi de titrer « Il faut démocratiser la France insoumise », ce à quoi le compte officiel de Mélenchon a répondu sur Facebook comme un vrai boomer. « Toute la une pour nous salir ».
Bon, après, je pense qu'il parlait de Libé. C'est Libé qui choisit la une et le titre.
Bon, après, c'est quand même ambigu. Hein. En tout cas, ça montre que l'ambiance est pas ouf en ce moment.
D'autant plus qu'à ce premier clivage se superpose un second qui le recoupe en partie, le clivage générationnel.
C'est en effet dans la jeune génération que les attentes sont les plus élevées en matière de démocratie interne, de participation, de lutte contre les VSS et de transparence. Et là aussi, le terrain de bataille qui a rendu visible ce décalage, ça a été l'affaire Caténins. Nous vous en parlions déjà en septembre.
Et oui, en effet, les volets féministes des programmes des formations de gauche sont souvent sous-traités à des militantes spécialisées sur la question. Alors oui, ils sont ambitieux, mais ils ne reflètent pas nécessairement la mentalité de la direction des partis sur la question.
Et donc cohabitent dans la même organisation politique des gens qui ont donc écrit ce livret thématique et des gens qui saluent la dignité et le courage d'Adrien Quatennens quand il est mis en cause pour violence conjugale.
Et cette jeune génération, elle a signifié assez franchement son désaccord avec la direction du mouvement, puisqu'on a vu la semaine passée les groupes jeunes insoumis de Poitiers, de Toulouse, de Bordeaux et d'ailleurs annoncer publiquement qu'ils se mettaient en retrait, qu'ils exigeaient la démission du député du Nord. C'est également ce qu'a déclaré publiquement le Discord insoumis. Je suis donc allé leur demander quelles étaient les raisons profondes de cette fronde, la première du genre.
Quand on parle de 6ème République, de démocratie horizontale, etc., peut-on avoir confiance dans un parti qui pense que finalement c'est plus efficace de mener les choses de manière autoritaire?
Pas mal de militants insoumis ont été beaucoup caricaturés quand ils sortaient cette phrase, que ce soit sur Twitter ou ailleurs, quand ils disaient non mais on s'en fout, ce qui compte c'est le programme. Mais c'est vrai en fait, on a pu critiquer entre nous des prises de position de Mélenchon, des passages télé où on était sidérés en mode putain il fait de la merde. Mais on n'a jamais marqué cette rupture-là, et si aujourd'hui on la marque, encore une fois, je pense que c'est à la fois, comme on le disait, on a été comme pas mal d'autres militants sur les questions, on va dire féministes. La campagne de Mélenchon, elle a été aussi très féministe, et c'est ça en fait qui nous anime. En fait, c'est tout simplement, on trouve ça scandaleux par rapport aux valeurs qu'on défend.
J'ai parlé toute la journée avec des gens de ce sujet, et là, j'ai jamais entendu personne qui pensait que Caténins pouvait continuer. Il y a deux raisons principales, et tu les as évoquées, donc à savoir la raison de la justice, et l'autre raison, c'est que de toute façon, il perd toute crédibilité, et notamment avec les alliés de la NUPES.
Et oui, on en revient aux alliés de la NUPES, avec lesquels il va falloir travailler. On parle beaucoup de la bataille des retraites à venir, mais les groupuscules d'extrême droite s'agitent ces jours-ci dans les centres-villes, et voilà qui met à l'agenda de la gauche une autre priorité, la constitution urgente d'un front antifasciste, large, conséquent, déterminé et unitaire.
Il y a une lutte spécifique, et il y a quelque chose à construire d'unitaire avec l'ensemble de la gauche, ou celles et ceux qui sont partie prenante du mouvement syndical associatif, mais c'est vrai que là pour le coup, on est dans une situation de danger qui peut paraître imminente. On n'est plus dans l'idée que peut-être demain, ça va faire mal. Non, là, c'est maintenant.
C'est à ce front uni qu'aspirent Philippe Poutou, Olivier Besancenot, Pauline Salingue, Christine Poupin et apparemment une partie du NPA et de sa direction, qui ont acté la semaine dernière ce qui semble devenir une scission. L'enjeu, c'est en effet de se rapprocher du reste de la gauche, dans les luttes et même dans les élections quand il le faudra.
Une situation dans laquelle la gauche est dominée par une gauche anti-néolibérale, c'est pas la même chose qu'une gauche qui est dominée par une gauche libérale. Bon.
Et chez ces militants de culture trotskiste, la lutte antifasciste doit naturellement conduire les forces de gauche à mettre de côté leurs désaccords. C'est une des leçons de l'histoire du mouvement ouvrier.
Que ça soit de voir des manifestations avec des bras tendus dans la rue, des groupuscules qui... il n'y a jamais eu autant de projets d'attentats déjoués, notamment contre la communauté musulmane, par exemple, ne serait-ce que pour prendre cet exemple-là, les attaques des locaux du mouvement ouvrier, toutes choses qui doivent nous amener à de toute façon résister ensemble.
Là-dessus, pour le coup, Mélenchon est d'accord, d'autant plus que ces dernières semaines, plusieurs réunions publiques organisées par LFI ont été attaquées ou perturbées par des militants d'extrême droite.
Nous devons prendre très au sérieux cette menace-là, parce qu'elle est réelle. C'est pas le cinéma que se font certains sur les insoumis. Les insoumis n'ont jamais frappé personne, ni fait des scènes de cette nature. Ce n'est pas notre manière. Mais là, nous sommes dans une situation où si vous laissez faire, si vous laissez toutes les réunions insoumises être pourries par des interventions d'extrême droite, soit des tacles sur tous les murs, intimider les gens qui nous louent leurs locaux pour qu'on fasse notre présence, ou alors ça porte aussi maintenant sur des pièces de théâtre, sur des choses de cette nature, on ne sera plus dans un autre contexte que celui qui était celui des années 30, où précisément les groupes fascistes passaient leur temps à ça, à intimider, faire peur, essayer d'empêcher l'auto-organisation. Et c'est ce que nous allons faire, faute de mieux, je le dis encore une fois, hélas.
Face aux enjeux de la période, défendre contre toute la gauche et même contre ses propres militants et militantes la réintégration rapide d'Adrien Quatennens, ça paraît complètement à côté de la plaque, à contre-temps. S'il y a bien une chose que les insoumis doivent éviter, c'est de se couper de leur base, pire, de se couper de la jeunesse.
Soyez, mes jeunes amis, déterminés,
implacable, ne cédait jamais rien, ne marchait dans aucune mode, ne mettait jamais d'eau pour refroidir votre boisson. Celle du combat, celle de la vie. Vous avez raison.
C'est à la jeunesse que Mélenchon s'est adressé à Saint-Étienne vendredi dernier. Et j'ai envie de terminer sur du Mélenchon parce qu'il a raison là pour le coup. Le plus important aujourd'hui, c'est de maintenir l'unité des forces de gauche et l'unité des insoumis.
Cette force est notre bien le plus précieux. Et la jeune génération, croyez-le, fera mieux. C'est une certitude absolue parce qu'elle a compris, qu'elle assume et qu'elle commence le combat le plus fondamental qui est de dire qu'on doit tout changer pour que quelque chose change.
Et c'est sans doute chez les insoumis et dans le fonctionnement même du mouvement qu'il va falloir changer pas mal de choses, oui.
Voilà qui clôture cette année 2022 sur de bien sombres perspectives. Joyeux Noël, surtout. Nous, on se retrouve le 9 janvier. Avant de vous quitter, petit moment promo, abonnez-vous à la chaîne Twitch de Mediapart.
Oui, en plus, ils font une émission tous les lundis à 19h qui s'appelle Abonnez-vous.
C'est nouveau, c'est original ça, Twitch, dis donc.
Ouais.
Mediapart sur Twitch. Qui l'eût cru ?